BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
On est ensemble jusqu'à midi, comme tous les jours. BFM Patrimoine vous accompagne 2 heures durant et on file tout de suite à la bourse pour prendre un petit peu le pouls de cette séance. Première séance d'une semaine très chargée, tant en termes de statistiques que de réunions de banque centrale, que de publications d'entreprises. Et c'est Thibaut François que l'on retrouve chez Fastia Capital. Bonjour Thibaut.
Bonjour Cédric.
Qu'est-ce qu'on se dit ce matin sur les tables? On attend tous ces grands rendez-vous?
Ah, il y a pas mal de choses cette semaine, hein, sur notamment au niveau des banques centrales. On a la Fed qui va intervenir dès demain et avec une décision mercredi sur la hausse des taux. Alors l'inflation ralentit déjà depuis quelques semaines, donc on s'attend à une hausse des taux plus modérée sur la partie Fed. Donc le consensus anticipe une hausse des taux de 0,25 dès mercredi. C'est un peu moins le cas sur la partie BCE qui interviendra jeudi. Jeudi, on attend une hausse de taux plus forte sur la partie européenne, autour de 0,5 points d'augmentation pour la BCE. C'est assez logique. L'inflation est toujours assez présente en Europe, un petit peu partout en Europe. Et surtout, les taux ont beaucoup moins monté sur la partie européenne sur l'année 2022. Donc, anticipation un peu plus forte du côté de la BCE par rapport à la Fed. Donc, des grosses réunions mercredi, jeudi. Donc, les investisseurs, on va dire, lâche un petit peu de papier en ce début de semaine. On est en baisse de 0,55 à 7058 points sur le CAC 40. On est quand même en hausse de pratiquement 9% depuis le début d'année. Donc ça se passe plutôt bien. Et dans le palmarès ce jour, on retrouve deux titres dans le palmarès. On a Alten qui fait pratiquement 3% de hausse, qui a annoncé son chiffre d'affaires sur l'année 2022. Croissance de 27% en organique sur l'année 2022, donc c'est une superbe année pour Alten. Le début d'année a priori se maintient sur les niveaux actuels, donc des perspectives plutôt intéressantes sur l'année 2023. Et bien sûr, on a ce matin des informations sur Renault avec l'alliance avec Nissan, un rééquilibrage qui devrait se faire entre les deux groupes. Aujourd'hui, Renault avait une participation de plus de 40% dans Nissan et Nissan avait une participation de 15% dans Renault. Les deux titres devraient, en tout cas, les deux sociétés devraient rééquilibrer leur participation autour de 15%. Le reste des titres sera apporté à une fiducie de la part de Renault. Donc, il y a un rééquilibrage qui sera fait. Nissan devrait investir dans la société Ampère, qui sera la filiale électrique de l'ensemble du groupe. Donc, l'alliance se poursuit sur des choses beaucoup plus égalitaires dans les prochains mois, dans les prochaines années. On va avoir un peu plus de détails dans les prochaines semaines lorsque les conseils d'administration valideront un petit peu ce rééquilibrage. Donc, pour l'instant, il y a des prises de bénéfices sur Renault autour de 2,20 ce matin. On est autour de 37 € sur le dossier Renault. C'était quand même assez anticipé par les investisseurs. Maintenant, les investisseurs veulent un peu plus de détails, de savoir comment ça va se passer dans les prochaines semaines, les synergies éventuellement qui vont être mises en place. Donc pour l'instant, le titre est vendu, mais en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'ensemble du groupe pour les prochains mois.
Voilà donc quelques idées à avoir en tête en ce début de semaine. Merci beaucoup Thibaut. Thibaut François, Fastia Capital, qui était avec nous comme chaque lundi pour lire cette tendance au début de la deuxième heure de BFM Patrimoine. Et tout de suite, c'est Raphaël Couder pour l'Info Éco.
BFM Business, l'Info Éco.
Et à la une, cette nouvelle semaine décisive pour le gouvernement sur les retraites, alors qu'une seconde journée de mobilisation aura lieu demain. Le projet de réforme est débattu depuis ce matin en commission à l'Assemblée nationale. Les députés vont plancher sur le texte article par article dans une ambiance de plus en plus tendue. Elisabeth Borne a affiché sa fermeté ce week-end. L'âge de départ n'est plus négociable, a assuré la Première ministre. Dans l'actualité économique ce matin, également plusieurs indicateurs en Europe. En Allemagne, le PIB a chuté de 0,2% au quatrième trimestre 2022. Le pays est évidemment plombé par la crise énergétique et l'inflation. Sur l'ensemble de l'année, la croissance allemande reste en hausse de 1,8%. Par ailleurs, en Espagne, l'inflation rebondit très légèrement après 5 mois consécutifs de baisse. La hausse des prix s'est établie à 5,8% au mois de janvier, un chiffre supérieur de 0,1 point par rapport au niveau de décembre et donc encore très loin du record et du pic de 10,8% atteint en juillet dernier. Dans l'aérien, Ryanair, porté par la reprise de la demande, la compagnie low cost annonce un bénéfice de 211 millions d'euros sur les trois derniers mois de l'année dernière. Il y a un an, le groupe avait essuyé une perte de près de 100 millions d'euros. Il constate au contraire sur le trimestre dernier un trafic et des tarifs solides, notamment pendant les vacances de Noël. Et puis Avatar 2 continue de dominer le box-office mondial avec désormais 2,1 milliards de dollars de recettes engrangées. Le film de James Cameron devient le quatrième long métrage le plus rentable de l'histoire. Avec Titanic et le premier Avatar, son réalisateur a maintenant son nom sur trois des quatre films les plus lucratifs jamais produits. Avengers Endgame des studios Marvel et Disney s'en sert, lui, à la deuxième place du podium.
Merci beaucoup Raphaël. Raphaël Couder qui nous accompagne ce matin pour lire toute l'actualité éco. Et nous tout de suite on ouvre Regards Croisés.
BFM Business, BFM Patrimoine, Regards Croisés.
Regard croisé qui accueille ce matin Eric Turgeman. Bonjour Eric.
Bonjour Sylvain.
Pour Ofi Invest AM et Emmanuel Lechypre, éditorialiste à BFM Business. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Merci à tous les deux d'être là. D'abord cette question, est-ce que les marchés boursiers voient la vie trop en rose? Alors on ne va pas s'arrêter sur la baisse de ce matin, hein, mais on est quasiment à la porte des 7100. Ça c'est pour le CAC. Quand on voit le SPI, il est en passe de réaliser son deuxième meilleur mois de janvier depuis le début du siècle, là, carrément. Eric, on a chaussé les lunettes roses, un petit peu trop ou juste ce qu'il faut?
Peut-être un peu rapidement. En fait, ce qu'il y a, c'est que les marchés boursiers voyaient tout en noir il y a peu de temps. C'était surtout ça, parce qu'en fait, sur les niveaux du mois dernier ou d'il y a deux mois, finalement, quand on regarde bien, on avait des bénéfices plutôt stables, des taux d'intérêt qui avaient reflué, et donc une valo des marchés autour de 11 fois en Europe, ce qui n'était pas du tout prohibitif, en fait. Mais, effectivement, on voyait l'inflation, la récession, la guerre, donc, qui existe toujours. Là, aujourd'hui, ça s'est complètement transformé, peut-être parce que, finalement, peu de personnes croyaient à une recovery du marché. Et là, on considère, effectivement, que des bonnes nouvelles. On considère que les taux vont rester relativement bas, que la croissance, finalement, même si elle est très basse, n'engendrera pas de révision en baisse des profits. Et du coup, on a un marché qui a monté 10% en 25 jours. C'est quand même très, très rapide, sans que fondamentalement, il y ait eu de changement ni du côté des taux, ni du côté des profits. Alors, nous, ces objectifs, on les avait en fin d'année. Bon, on n'est pas complètement en désaccord avec ce niveau de marché, simplement qu'on ne pensait pas que ça irait aussi vite. Et quand même, il nous étonnerait qu'on ait 12 mois qui passent sans qu'il y ait des à-coups. Donc, pour répondre à la question, ça a été peut-être un peu vite. Oui, on voit les choses plutôt en rose.
Emmanuel, est-ce que les marchés voient trop la vie en rose ?
Non, moi je suis assez d'accord avec l'idée que il y avait des craintes excessives, hein, quand on avait déjà évoqué via la séquence 2022-2023. On avait dit 2022, ça a été l'année de tous les chocs extrêmes, l'année de tous les événements imprévisibles qui s'accumulent les uns après les autres, la guerre en Ukraine, la flambée d'inflation, la hausse brutale des taux d'intérêt. Et année qui s'était plutôt bien passée quand même pour les entreprises. Et on avait dit 2023, ce sera l'année où il n'y aura pas de scénario extrême. Et en fait, quand on regardait effectivement les perspectives économiques, vous pouvez voir que sur chaque finalement sujet macroéconomique, vous avez finalement, quand vous pesez le pour et le contre, ou bien les mécanismes et les phénomènes de compensation que vous pouvez avoir entre les événements, des scénarios qui sont moyens. Je prends l'exemple de la Chine, qui est quand même le market driver et qui sera le market driver de l'année. Vous voyez bien que si la Chine est faible, ça a des conséquences positives sur les matières premières, sur l'inflation. Si la Chine est forte, ça a des conséquences négatives sur les matières premières et l'inflation, mais ça a des conséquences positives en matière. Et sur tous les sujets, finalement, on est dans ce système un petit peu de jeu de balancier. Et donc, 2023, effectivement, est censé être l'année un peu ennuyeuse, finalement, en termes macro. Et donc ça, les marchés ne le prenaient pas du tout en compte. Or, qu'est-ce qu'on voit ? On voit finalement que ce scénario ennuyeux, il est en train de se réaliser, et que déjà, Il y avait tout un tas d'inquiétudes pour l'hiver qui sont en train de passer à la trappe. Si vous prenez par exemple toutes les inquiétudes relatives aux difficultés d'approvisionnement en énergie, en électricité, est-ce qu'il va y avoir des coupures de courant ? C'était ce qu'on redoutait.
Bien sûr.
Bon, bah on voit que tout ça finalement c'est des craintes qui se sont éloignées. Sur les prix du pétrole, on a aussi plutôt des bonnes nouvelles. Sur les indicateurs d'inflation, on a quand même finalement cette tendance qu'on sentait venir et que la mécanique de l'inflation et de la fabrication laissait entendre qu'on était proche du pic et que finalement on allait vers une décélération, ce qui se confirme plutôt globalement. Et donc la visibilité sur l'année s'est quand même considérablement améliorée, avec une croissance qui sera pas folichonne, mais où les risques de déception effectivement et de catastrophe sont rares, et puis une inflation qui va décélérer gentiment jusqu'à la fin de l'année.
Voilà donc posé les clés du débat, et c'est vrai que la semaine va être assez chargée parce qu'on a d'abord toute une palanquée de statistiques, ensuite on a deux banques centrales, enfin trois si on met la BOJ, mais bon, la Banque d'Angleterre, pardon, la BOE, mais on a quand même la Fed et la Banque Centrale Européenne, et puis on a beaucoup de résultats d'entreprise, donc on va avoir pas mal de choses à se raconter. D'abord, quand on parle des banques centrales, est-ce que là, la semaine est décisive ? Est-ce qu'on a l'impression qu'elles ont fait le job, que le job est achevé, qu'on approche de la neutralité de taux ? Enfin, voilà. Comment est-ce que vous voyez les choses, Eric ?
Oui, on approche. Alors, elles ont besoin quand même de continuer à assurer leur crédibilité, les banques centrales, parce qu'en fait, il y a un an, elles n'avaient pas vu l'inflation venir. Enfin, elles considéraient que c'était transitoire. Ouais. Et à un moment donné, d'ailleurs, les marchés...
Tout le monde considérait que c'était transitoire.
Oui, tout le monde, mais le problème, c'est qu'eux, normalement, ils sont censés...
voir les choses un peu plus clairement
tout le monde,
c'est ça.
Voilà. Et du coup, les marchés se sont dit, les banques centrales, elles sont un peu, ce qu'on dit, behind the curve. Et la crédibilité a été un peu écornée. Donc elles ont besoin de, quitte à continuer à en mettre un peu trop, elles ont besoin de faire comprendre aux marchés qu'elles seront là, qu'elles veulent casser l'inflation. Alors, là où les marchés sont peut-être allés vite en besogne, c'est que les marchés considèrent que, par exemple, la Fed va atteindre son pic en mars, autour de 5%, la BCE autour du mois de juillet à 3,5%, et qu'après, d'ici la fin de l'année, elles vont immédiatement rebaisser les taux. Ça nous paraît un peu quand même rapide. C'est-à-dire que, pas de raison d'imaginer pour l'instant que ça aille plus loin que les niveaux anticipés. En revanche, là où peut-être que ça nous distingue par rapport au marché en général, c'est qu'on pense qu'on va rester tout 2023 à peu près à plat, le temps vraiment d'être sûr que l'inflation est cassée. Et quand même, on n'est pas complètement sûr. Alors c'est vrai qu'on s'est fait peur un peu avec le gaz et qu'on va normalement traverser l'hiver, qui n'est pas si chaud que ça d'ailleurs, hein. Mais enfin bon, qu'on va traverser cet hiver sans trop de dégâts.
Pour le moment, il y a un mois et quelques, on pensait qu'on n'aurait peut-être pas assez de gaz. Maintenant, on sait d'ores et déjà qu'on en a quasiment trop.
Ça, c'est bien oublié, c'est quand les températures ont été clémentes au moment où on en avait besoin.
Voilà. Ouais, voilà. Ouais. Bon, donc là, on va se poser la question de 2023, voilà, ouais. de l'hiver 23-24. Mais voilà, bon, ça, si on veut, normalement, c'est à peu près derrière nous. Pour autant, alors maintenant, la question, c'est la spirale prix-salaire. Voilà, parce qu'on n'est pas complètement sûr. On la voit pas complètement, mais il peut avoir des craintes. Moi, ce que je pense, c'est que à un moment donné, on peut avoir, soit dans le discours des banques centrales, on le verra cette semaine, un ton un peu plus au quiche, soit des chiffres finalement macroéconomiques, notamment du chômage. Ça, c'est très positif, le chômage, mais pour les marchés, ça l'est pas. C'est cynique, mais ça l'est pas.
Oui, bien sûr.
On peut avoir à un moment donné des craintes et que les marchés se disent, oula, peut-être que les banques centrales n'en ont pas fini. Le 5, ça peut être 6. Le 3,5, ça peut être 4. Et c'est pour ça qu'on pense qu'on pourrait avoir un peu de volatilité, plus que sur les résultats d'entreprises qui sont très très bons et qui bénéficient mine de rien d'une conjoncture, malgré un ralentissement de la croissance, qui n'est pas si mauvaise.
Emmanuel, votre regard sur ces banques centrales, sur la neutralité des taux réels, sur le travail achevé ou pas ?
Moi, je pense qu'on est... C'est là où finalement, ça explique aussi sans doute une partie du rebond des marchés, c'est que à quelques semaines près, on va dire, l'horizon, il est quand même assez bien balisé. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que les bornes de 5% pour les taux de la Fed et de 3,5% pour les taux européens, c'est des bornes qu'on peut considérer aujourd'hui comme probables. C'est les pics qui seront atteints. Bon, déjà, quand vous avez quand même des relatives certitudes vis-à-vis des niveaux, c'est déjà quelque chose. Après, là où on est dans une forme d'incertitude, c'est que si on regarde les cycles de resserrement monétaire passés, on voit que là, on est allé beaucoup plus vite. Et donc, la question, effectivement, c'est que la durée traditionnelle des cycles de hausse, la durée traditionnelle des périodes de stabilité des taux, puis après la durée traditionnelle des périodes de baisse des taux, là, on peut avoir un calendrier qui est un peu chamboulé par rapport aux repères traditionnels. Par exemple, si on considère que la hausse des taux, elle a été beaucoup plus rapide que prévu et beaucoup plus rapide que dans le passé, on se dit peut-être effectivement que le plateau durera plus longtemps. C'est-à-dire que la période qu'il y aura entre le dernier resserrement et le premier relâchement sera peut-être plus importante que prévu. Mais encore une fois, je pense que ça remet pas en cause le profil. C'est-à-dire qu'en gros, la question c'est est-ce que on finira 2023 avec déjà une amorce de desserrement monétaire ou bien est-ce qu'il faudra attendre début 2024? Mais encore une fois, moi je trouve que le scénario il est assez bien balisé. Mais effectivement, il faut pas exclure des moments de tension parce que on voit bien que le discours aussi des banquiers centraux il change beaucoup plus vite qu'avant. Bien sûr. Mais on est capable d'avoir des discours qui d'un seul coup deviennent un peu faucons, alors que regardez la BCE, elle a tenu des discours qui dans lesquels il n'y avait pas vraiment de progressivité.
N'empêche que, à vous entendre, on a l'impression que ce qui va peut-être être décisif, ce sont plus les statistiques, comme le climat des affaires cette semaine et autres, plutôt que les réunions de banque centrale.
Non, les deux. Mais enfin, moi, ce que je pense, c'est ce qui va être décisif, c'est l'anticipation d'une volatilité sur les taux d'intérêt, parce que là, on est à 2,20, je crois, sur le 10 ans allemand, à 3,5 sur le 10 ans américain. Ça, c'est formidable pour les marchés actions. Hein. Enfin, si on vous dit que le 2,20 va rester sur les 10 ans à venir. Les marchés actions adorent ça. Il y a des corrélations assez fortes entre les taux et d'ailleurs l'inflation et les PE des entreprises. Quand on regarde les break-even, ils nous disent que l'inflation va tourner autour de 2,5. Ça, c'est formidable. Mais je pense qu'à un moment donné, on va se reposer la question de savoir si on n'a pas été un peu trop optimiste sur cette baisse, on va dire, de l'inflation. Mais ça sera au gré soit des déclarations des banquiers centraux, soit des données économiques. Mais les banquiers centraux, ils sont data dépendants, ils le disent eux-mêmes. Donc à la fin, ça sera les données économiques. Encore une fois, des chiffres d'inflation, mais des chiffres de croissance, d'activité économique et de chômage. Voilà, parce qu'à un moment donné, ça sera bon pour la croissance, ça sera bon pour les résultats. Et ce que disait Emmanuel sur la Chine, ça peut être renversé selon la manière dont vous le voyez. C'est-à-dire que on peut se dire la Chine va mieux, très bien, ça fait de la croissance, ça fait des bénéfices. Mais on peut se dire la Chine va mieux, attention, ça va engendrer une demande encore plus forte sur les matières premières et alimenter les craintes d'inflation et donc envoyer un message de durcissement encore du... Vous voyez, c'est la manière dont on regarde les choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on regarde plutôt positivement.
N'empêche qu'aujourd'hui, ces choix de banque centrale, ces constats statistiques, ils nous donnent un truc, c'est le marché des devises qu'ils révèlent. Et c'est l'euro qui reste assez fort, qui a touché des plus hauts de 9 mois face au dollar. C'est bien, ça, cette reprise de l'euro ?
Je pense qu'elle est totalement cohérente avec la remontée des marchés. C'est-à-dire, comme il y avait sans doute cet excès de pessimisme sur la conjoncture européenne et sur les risques.
Du coup, on compense.
Voilà, je pense qu'il y a eu effectivement cette angoisse de voir l'Europe finalement chahutée par toutes ces pénuries d'énergie, d'électricité. Maintenant que ces pénuries et ces risques s'éloignent, je pense qu'il y a une correction. La baisse de l'euro, elle est sans doute allée trop loin, effectivement, aussi, reflétant ce pessimisme. Et puis, bon, sur les devises, il faut jamais négliger aussi l'aspect un peu géopolitique. Il y a toujours le dollar qui est toujours cette valeur refuge. Mais franchement, moi, je pense que ça reflète surtout le soulagement par rapport aux difficultés de l'Europe à passer l'hiver, notamment sur le plan énergétique, et finalement difficultés qui ont été surestimées, et ce risque-là ne se réalisera. Et puis quand même, des performances de croissance et des performances économiques qui sont assez nettement meilleur, là encore en Europe, que ce qu'on avait anticipé il y a 3 ou 4 mois. C'est-à-dire que quand on regarde les résultats de PIB, ils sont pas si mauvais que ça. Quand on regarde tous les indicateurs sur la consommation et l'investissement, ils sont pas si mauvais que ça. Le marché du travail, alors pour des raisons conjoncturelles, mais aussi pour des raisons structurelles. Je trouve que la résistance de la conjoncture européenne, elle surprend aussi agréablement. Et ça explique sans doute aussi ce rebond de l'euro.
Surtout que ce n'était pas que l'euro-dollar, c'était le dollar qui avait grimpé contre toute monnaie. Hein. Voilà. Et puis alors peut-être aussi qu'il y a une anticipation de détente de la politique monétaire américaine un peu plus rapide que l'européenne. Il y a toujours un peu une avance de...
Peut-être carry trade, quoi.
Peut-être un petit peu, oui.
Bon, donc ça, ce sont nos banques centrales. Il y en a une, malgré tout, qui fait carrément bande à part, c'est la Banque du Japon. On s'attendait à ce que, face aux interrogations de pas mal d'observateurs, elle l'assouplisse un peu, qu'elle mette un peu d'huile dans les rouages. Il n'en est rien, Emmanuel. C'est surprenant, c'est normal, c'est... Enfin, voilà, comment est-ce que vous percevez cette histoire japonaise ?
Moi, je pense qu'au vu de la situation économique japonaise, c'est-à-dire la conjoncture et puis la situation structurelle, plus démographique, compétitive, etc. Moi, je pense que la Banque du Japon, pour le moment, elle a un intérêt, c'est d'attendre.
Ne rien changer, quoi.
Non, je pense qu'elle a pas, il n'y a pas d'urgence, fondamentalement. Et donc, je pense qu'elle a raison d'essayer de voir comment la conjoncture va tourner dans les prochains mois.
Ça vous inspire, ce Japon qui...
Non, mais je...
qui est toujours un ovni, finalement, dans...
Ils sont à part, ils ont des problèmes effectivement démographiques qui arriveront à tout le monde, mais enfin aussi ils sont en avance de phase. Mais je regardais dernièrement le Nikkei là, je me souvenais du Nikkei il y a 35 ans, enfin lui c'est le seul qui n'a pas retrouvé son niveau.
Ouais, c'est
ça. Et de très très loin. Enfin, le Japonais qui a investi il y a 30 ans, quand on dit investissez en bourse sur le long terme, vous êtes sûr de gagner.
C'est sûr que quand il était à 40 000.
40 000, hein.
Ouais, c'était. C'est quoi? C'est 89.
Ouais, les années 90, 40 000, ouais. Si je regardais,
c'est sûr que.
On est à 27 000.
C'est quoi?
27 400 ce matin. Bon. Intéressons-nous un peu au marché d'actions. On en a dit un mot conjoncturellement en début de propos. Qu'est-ce que vous espérez des marchés actions? On dira peut-être un mot aussi des marchés obligataires après, mais déjà commençons par nos marchés actions. Qu'est-ce que vous en espérez pour ce nouveau cru 2023?
Mais encore une fois, on est embêté.
Est-ce qu'on se dit première semaine, premier mois, ça nous donne la coloration
On avait fait.
Deux fois sur trois ou pas?
Non, alors on a fait cette émission d'ailleurs dans cette configuration avec Emmanuel il y a un mois ou quelque chose comme ça. Et bon, ce qu'on disait, c'est qu'on voyait les marchés sur l'année 2023 retrouver leur niveau historique, ce qui était ambitieux quand même, hein, parce qu'il reste quand même.
Et on y est quasiment.
Ben, on y est. Alors là, c'est un peu embêtant qu'en plus les taux monétaires maintenant rapportent quelque chose, parce qu'encore il y a quelques mois, ils étaient négatifs. Là, quand vous avez un marché monétaire qui rapporte selon les zones entre 3 et 5 %, vous avez un couple risque-rendement qui fait que pour aller sur les actions, il faut espérer quand même beaucoup plus. Ouais. Sinon, vous n'y allez pas par rapport à la volatilité. Et nous, on a une ambition de fin d'année un peu au-dessous de ces niveaux-là. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout négatif. Mais on pense qu'il reste encore 11 mois avant d'atteindre ces niveaux.
Que ça ne va pas y aller en ligne droite.
Que ça ne va pas aller en ligne droite. Donc, autant on était très confiants en fin d'année dernière, en se disant, effectivement, c'est des niveaux de valorisation qui permettent et une tension sur les taux et une révision en baisse des résultats. Autant, là, on a été un peu vite. Alors, si vous me demandez qu'est-ce qui déclencherait une consolidation, j'en sais rien, voilà, parce qu'on ne la voit jamais venir. Je pense que c'est plus du niveau des taux d'intérêt que des résultats, parce que là, en revanche, je suis plutôt très confiant sur les résultats des grandes entreprises. Encore une fois, les grandes entreprises ne reflètent pas le tissu économique de l'ensemble des PME, etc., qui, elles, souffrent. Donc les résultats sont de bonne facture. On ne révisera pas forcément 2023. Mais on peut avoir, de temps en temps, se faire peur sur les taux d'intérêt. Donc, c'est vrai que c'est bateau hein, de dire optimiste à long terme et prudent à court terme. Mais là, plus que jamais, on a été vite quand même. On a été vite.
Emmanuel, effectivement, ce décettinat qu'on a acté il y a déjà maintenant de longues semaines, pour ne pas dire quelques mois.
C'est vrai qu'il y a plus de concurrence, effectivement, entre placements. Mais là, on retrouve quand même un petit peu les lois de la gravité économique et financière,
hein,
qu'on avait complètement...
On normalise, oubliées. Finalement.
Voilà, c'est ça. C'est que maintenant, on retrouve ces notions basiques que le temps et le risque, ça a un prix, voilà, et ça n'en avait plus. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose à laquelle il faut être très attentif, c'est quand même la liquidité. Parce qu'on voit bien que quand vous regardez... la liquidité des banques centrales, vous voyez qu'il y a quand même, en fonction des injections et des retraits, une corrélation qui est presque parfaite avec les marchés boursiers. Donc, quelle va être... on est plutôt quand même sur un format restrictif. On est plutôt sur une tendance à où effectivement les banques centrales reprennent un petit peu d'argent. Donc ça va pas être un facteur positif. Et puis, pour moi, le plus dur, le plus difficile à anticiper, c'est qu'est-ce qui va se passer en matière sectorielle. C'est-à-dire, en gros, est-ce que on va assister à des rotations brutales? Est-ce qu'il y a des secteurs qui vont finalement faire l'objet d'engouement, d'autres qui vont faire l'objet de rejet? Est-ce que ça va changer par rapport notamment à ce qu'on a pu voir en 2022? Donc, moi, parce que on est quand même depuis le Covid. Et c'est ça la différence aussi dans ces trois années difficiles qu'on vient de vivre. C'est que si vous regardez par exemple la crise de 2008-2009, c'est vraiment tous les secteurs qui avaient plongé. C'est-à-dire que si vous regardez ce qui s'était passé pendant ces périodes de crise, vous aviez des performances qui étaient toutes à la baisse, avec de l'amplitude, mais tous les secteurs baissaient quasiment. Là, quand vous regardez finalement les différents secteurs depuis la crise sanitaire, alors c'était peut-être lié à la nature intrinsèque de la crise sanitaire, mais vous avez des secteurs qui ont été dans le vert, vous avez des secteurs qui ont été qui ont performé médiocrement, puis vous avez des secteurs qui ont très largement sous-performé. Donc, est-ce que cette sélection finalement sectorielle, ça va être encore d'actualité? Est-ce que c'est les mêmes secteurs qui vont performer, ou bien est-ce qu'on va avoir une certaine finalement convergence des performances? Moi, c'est ça, j'ai le plus de mal à voir.
Eh ben, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à Regard Croisé ce matin. Pas mal de sujets hein, à l'entame de cette semaine qui sera importante, avec des banques centrales, beaucoup de statistiques et puis de publications d'entreprises. On va largement y consacrer du temps tout au long de la semaine. Merci beaucoup Eric Turgeman, donc, pour Ofi Invest AM, et puis Emmanuel Lechypre, que l'on retrouve très régulièrement sur BFM Business. À très bientôt tous les deux. Le marché parisien, lui, eh bien, il marque le pas pour le moment. On baisse de 0,5%. 7057 points. On va voir ce qu'on en dit techniquement du côté de Saxo Bank, où nous attend Andrea Twenny. À tout de suite.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Allez, pour entamer cette dernière demi-heure de BFM Patrimoine, on file à la bourse. Et c'est Andrea Twenny qui suit tout ça depuis Saxo Bank. Techniquement, comment appréhender, expliquer un petit peu cette tendance hésitante, quelques points sous le niveau de vendredi soir.
Ouais, on est sur une consolidation, on va dire, sur une volonté peut-être aussi de limiter, on va, son exposition avant une semaine qui va être très très compliquée. C'est vraiment l'explication qu'on peut apporter aujourd'hui à cette baisse qu'on observe sur les marchés. Il n'y a pas vraiment de catalyseur, il n'y a pas de motif ou de raison qui justifie qu'on ait une baisse du marché. C'est plus vraiment encore une fois une semaine qui s'annonce extrêmement chargée, avec à la fois de la macroéconomie, le rapport sur l'emploi vendredi notamment aux États-Unis, des banques centrales, la Fed, la Banque centrale européenne et la BOE vont faire leurs annonces cette semaine, et on sait qu'elles sont extrêmement attendues, notamment du côté de la Fed, avec une anticipation très forte des marchés sur une Fed qui se montrerait plus accommodante, une hausse de 25 points de base, c'est ce qui est anticipé, c'est le scénario de base. On sait qu'on a un marché qui price de manière assez forte ce scénario-là, d'une Fed plus accommodante, avec peut-être encore une hausse de taux derrière. Et pourquoi pas une première baisse de taux plus tard en 2023. Donc du coup, il faudra surveiller avec attention. Est-ce que la Fed va prendre un peu de court les marchés et surprendre avec un discours plus hawkish que ce qu'attendent les marchés? Ça peut aussi être un facteur qui peut changer un petit peu la donne de ce qu'on observe depuis le début de l'année, à savoir une hausse assez marquée des principaux indices mondiaux, et notamment en Europe avec le CAC autour des 9% de hausse. Donc il faudra surveiller cela. Et puis on aura aussi des résultats d'entreprise avec beaucoup de valeurs de la tech qui vont publier. Donc ça aussi, ça sera quelque chose à suivre et qui peut encore une fois provoquer des remous. Donc attention, une semaine à haut risque pour les marchés. Donc du coup, c'est logique aujourd'hui, en ce lundi où on aura du coup beaucoup moins d'annonces, beaucoup moins d'événements, d'avoir des marchés qui voilà sont en léger repli. On a des zones autour des 7050, c'est une zone de support, on est dessus d'ailleurs. On a au-delà 7000 et puis 6950 comme une première zone possible de neutralisation sur le CAC. Donc c'est vraiment un niveau jusqu'auquel on pourrait glisser. Et puis on a toujours ce plafond de verre, hein, depuis le début de l'année, 7125 points à peu près, légèrement en dessous de ce niveau, 7115-120 même, qui est vraiment ce niveau difficile à franchir pour le moment pour le CAC. Et on verra du coup à l'issue de la semaine si on a une confirmation de bonnes nouvelles et des anticipations du marché. Peut-être qu'on peut avoir ce niveau, on pourrait peut-être s'affranchir de ce niveau, mais voilà, attention encore une fois, on n'a pas de garantie et c'est vrai que toutes les anticipations qui sont faites et qui justifient la hausse qu'on a continue hein, depuis le début de l'année, elles vont être mises à rude épreuve cette semaine sur les marchés par les annonces qu'on va avoir et donc du coup c'est une semaine encore une fois à haut risque et qui pourrait être assez déterminante pour la suite et pour l'évolution des marchés qui ont déjà fortement progressé depuis le début de l'année.
Merci beaucoup Andrea. Andrea Tweni, Saxo Bank qui nous accompagne ce matin. Le marché parisien qui perd 0,68% à 7048 points.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Bonjour Frédéric Lorenzini.
Bonjour Cédric.
Pour le groupe FICAD, j'ai un gros soupçon Frédéric.
Allez, dites-moi tout.
Vous cherchez la cote et vous choisissez tous les noms les plus imprononçables pour me les coller le lundi matin.
Un peu zazou, voilà, hein? Je me suis dit que ça allait être un peu romantique.
Un auditeur nous demande ce qu'il faut penser du fonds Skagen Kontiki.
Alors qu'est-ce que c'est que ce Skagen Kontiki? Skagen, c'est une maison de gestion scandinave, c'est une maison de gestion norvégienne en fait, qui arrive en France. Alors, on parle régulièrement de ces maisons un peu européennes qui viennent s'installer en France. On a parlé de Ruffer, on a parlé qui est britannique, on a parlé de Lupus Alpha qui est allemand. Là, Skagen, donc c'est des Scandinaves. Kontiki, c'est quoi? Alors Kontiki, c'est le nom d'un bateau que un anthropologue norvégien utilisait autour des années 40-50 pour allier le Pérou à la Polynésie. Et donc il voulait montrer que dans des temps anciens, il y avait eu un effet de peuplement à partir de l'Amérique latine. Et donc, ce fonds Skagen Kontiki, c'est un fonds...
Investi dans les bateaux?
C'est pas pour investir dans les bateaux, c'est investi sur les actions pays émergents.
Bon, voilà. Alors, pourquoi s'y intéresser à part son nom rigolo?
Alors, votre auditeur a dû entendre dire que Skagen était en train d'arriver en France, et puis c'est vrai que c'est un fonds... Alors ça, c'est intéressant, qui est, par certains côtés, bien noté, c'est-à-dire qu'il est noté 4 étoiles chez Cantalis, donc 4 étoiles sur 5, c'est au lot du panier. Et puis chez Morningstar, il est noté toujours sur une échelle de 5 niveaux, 2 étoiles seulement. Mais voilà, c'est sans doute la raison pour laquelle on s'y intéresse.
Est-ce que les performances sont bonnes?
Alors ça, c'est toujours une bonne question, parce que ça dépend du point de vue que vous adoptez, court terme, très court terme, le nez dans le guidon, à la semaine de la semaine, ou long terme. Le fonds, à peu près une vingtaine d'années, il a été créé en 2002, donc sur 20 ans, on a une performance de l'ordre de plus de 12% par an, c'est bien. Et quand on regarde la courbe de performance sur long terme, on voit qu'effectivement, le fonds, il est, comme on dit, un peu outstanding, il est au-dessus. On voit aussi qu'il est volatile. Et on sait que les marchés émergents, souvent, c'est un petit peu volatile. Et c'est sans doute cette volatilité qui explique que dans le cadre de la notation Morningstar, il ne soit que 2 étoiles, parce que Morningstar pénalise la volatilité. Donc sur le long terme, oui, c'est outstanding.
Bon, et à plus court terme?
Alors sur un an et moins, c'est un fonds qui se compare favorablement aux homologues, que ce soit l'indice de référence ou le peer group, que ce soit sur 4 semaines, un an, et que c'est, sur un an c'est contre-intuitif, mais sur 4 semaines par exemple, ça se compare favorablement, sur 3 mois et 6 mois aussi, sur le moyen long terme, sur 3-5 ans, c'est pas toujours le cas, mais ça c'est assez normal, il n'y a pas de fond, hein. Ça c'est un fantasme d'investisseur, c'est le livret A, hein, le fantasme d'investisseur c'est d'avoir un rendement qui soit supérieur au livret A, avec un truc qui est stable, avec une stabilité de sénateur, sans volatilité. Donc dès lors que vous allez sur les marchés actions, a fortiori...
Il faut accepter un peu de...
Il y a de la volatilité, c'est un petit peu rock'n'roll quand même.
Du coup, on va s'intéresser un petit peu à ce qu'on trouve dans ce
Skagen
Kontiki. Qu'est-ce qu'il y a dans le fond?
Alors, c'est un fonds qui pèse un peu plus d'un milliard d'euros, 1,2 milliard. En fait, on a un portefeuille relativement resserré, 42 lignes. 42 lignes pour un fonds action, c'est pas énorme. On rentre dans l'univers de ce qu'on appelle la gestion de conviction, c'est-à-dire des gérants qui vont choisir des choses, parfois un peu en dehors des sentiers battus. Alors, sans surprise, on a à peu près 25% investi sur des actifs chinois comme Alibaba ou Ping Han, l'assureur. Ça, c'est à peu près en ligne avec l'indice. Et puis, vous avez parfois une sous-exposition à certains marchés comme Taïwan ou l'Inde, ou à l'inverse, une surexposition à d'autres marchés comme le Brésil, l'Afrique du Sud ou encore la Corée du Sud. Et puis, Un autre élément qui confirme le fait qu'on a une gestion un peu très tranchée, c'est que les 10 premières lignes du fonds, hein, il y en a 42, les 10 premières lignes pèsent plus que 40% des actifs. Donc c'est vraiment une équipe qui n'hésite pas à sortir, comme on dit, de la gestion indicielle et des sentiers battus.
Bon, du coup, qu'est-ce qu'on se dit, qu'on y va, qu'on a des réserves, que...
Alors, point pour et point contre, hein, c'est ça votre question. Alors, point pour, Skagen, c'est une maison sérieuse. Les émergents, on le répète, hein, il faut d'une façon ou d'une autre y aller. Grosso modo, on peut prendre un ticket, avec toujours un point de vigilance, c'est qu'en allant sur les émergents, on prend une exposition à un risque devise. Hein. Les devises émergentes sont parfois assez rock'n'roll. Et c'est un peu inévitable qu'on veut aller sur les émergents et ce n'est pas propre à ce fait.
Faut en connaître le risque.
Faut en connaître le risque, il y a de la volatilité. Bon.
Merci beaucoup Frédéric Lorenzini donc, et ce fonds Skagen Contiki passé au crible. Vous en trouverez encore plus compliqué pour lundi prochain ?
Ça doit être possible.
Bon, allez, on vous fait confiance. Frédéric Lorenzini que l'on retrouve donc pour quelques idées de fonds chaque lundi pour le groupe FICAD. Le marché parisien, lui, est en repli de 0,68%, 7048 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Chaque jour, vous le savez, on répond à toutes vos questions. Vous pouvez d'ailleurs nous écrire chaque jour. Notre mail vous attend, bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. Et chaque matin, eh bien, nos experts sont là pour vous répondre. Et on accueille donc on retrouve donc Christian Fontaine pour la rédaction du Revenu. Prêt, Christian ?
On y va.
Allez, on démarre avec cette question que vous envoie Judith. Sa banque, à Judith, lui propose un fonds investi en actions avec une part dite de capitalisation et une part dite de distribution. Et elle se demande laquelle il faut choisir. Et
alors ça, c'est une question qui apparaît comme ça de assez technique, mais en fait qui concerne des millions de Français, tous les épargnants qui investissent à un moment donné, qui placent leurs économies dans un fonds d'investissement, quelle que soit la nature juridique du fonds, que ce soit un FCP, une SICAV, un ETF, voire même donc un fonds commun de placement en entreprise. Il faut savoir que chaque fonds, sur le plan technique, il y a un minimum deux parts, il y a très souvent deux parts, une part dite de distribution, donc qui va distribuer les revenus encaissés aux porteurs de parts. Les revenus encaissés, c'est les dividendes ou les coupons. Et puis vous avez des parts de capitalisation qui, là, réinvestissent les revenus encaissés par le fonds. Alors, quels sont les atouts des parts de distribution ? Ben, le premier atout, d'abord, c'est que si vous avez besoin de revenus complémentaires, donc vous encaissez des revenus.
Ça vous en fait.
Et puis, c'est souple, ça peut aider. Et puis, c'est souple. C'est-à-dire que vous encaissez des revenus, ben, soit vous les réinvestissez dans le fonds, soit vous les dépensez, soit vous les conservez en cash. Je dirais que sur le plan technique aussi, ça permet de facilement comparer la performance du fonds par rapport à l'indice de référence. Vous savez, l'indice de référence, c'est souvent un indice qui est calculé hors dividendes, par exemple le CAC 40. Donc vous comparez la performance du fonds net de revenus distribués avec l'indice de référence qui lui aussi est net. Donc ça permet, je dirais, assez facilement de vérifier si le fonds est bon ou pas bon. D'accord. Tandis qu'à l'inverse, avec les fonds dits de capitalisation, vous pouvez avoir l'impression qu'il est bon parce qu'en fait, il encaisse des revenus
parce qu'il monte,
et qu'en face, vous comparez par rapport à un indice de référence, le CAC 40, qui lui est hors dividende. Alors, il y a aussi quand même des avantages aux parts de capitalisation.
Justement, si on essaye d'être assez pédagogique ce matin, là, quels sont les atouts des parts de distribution ?
Alors, les atouts des parts de distribution, c'est que vous encaissez des revenus. Les atouts des parts de capitalisation, c'est que là, vous n'avez rien à faire. C'est certainement. Et vous profitez à fond de ce que Einstein appelle la septième merveille du monde, à savoir la capitalisation des intérêts. Donc, en gros, très concrètement, il faut essayer d'être pratique. Tout dépend, part de capi ou part de distrib, Judith, tout dépend un tout petit peu quelles sont vos priorités et quelles sont les enveloppes au sein desquelles vous envisagez d'acheter ces fonds. Souvent, au sein de l'assurance vie, puisque aujourd'hui, en France, donc alors 9 fonds sur 10 sont achetés au sein de l'enveloppe fiscale assurance vie. Là, il faut savoir la plupart, c'est des parts de capi. Si c'est des parts de distrib, il faut savoir que deviennent les revenus. Est-ce qu'ils sont versés sur le fonds en euros ou est-ce qu'ils sont automatiquement réinvestis en unité de compte du fonds? Attention aussi, dernière chose technique à savoir, c'est des parts de distribution. Est-ce qu'elle distribue des revenus annuellement, semestriellement ou par mois? Donc ça, c'était un point important à regarder.
Et en général, c'est
plutôt, c'est alors, et pour les ETF, ça va plutôt être par an, mais ça peut être, c'est soit soit par an, soit par trimestre. D'accord. Généralement, ça peut être deux fois par an. Donc voilà, donc c'est une excellente question. Il faut s'intéresser à ce sujet un petit peu technique. Et je vais vous prendre un exemple qui montre que c'est très important de s'y intéresser. Si vous encaissez, vous achetez un fonds sur un compte titre ordinaire et que c'est une part de distrib, tous les ans, vous allez encaisser des revenus et vous allez passer par la case impôt. 30% de prélèvement. Tandis que si c'est une part de capi, les revenus sont automatiquement réinvestis et donc vous ne passez pas par la case impôt, vous échappez, en tout cas momentanément, à 30% de prélèvement, c'est quand même pas mal.
Bon, mais ces parts n'ont rien à voir avec la part investisseur ou la part retail. Enfin,
non, ça n'a,
que dans
ça
les
n'a,
fonds,
ça n'a rien à voir. Là, on parle
souvent de parts.
Alors là, on parle de parts retail qui peuvent être achetées, on ne parle pas de parts institutionnelles, donc alors avec des frais réduits. Là, c'est des parts qui peuvent être acheté par le grand public, des parts riches.
Mais simplement, soit le distribue, soit le capitalise.
Voilà, et c'est une vraie question à se poser et j'aurais tendance à conseiller spontanément. Les particuliers préfèrent souvent les parts de distribue parce qu'ils ont l'impression de toucher chaque année des revenus. Bon, mais c'est un vrai faux problème parce que ces revenus, souvent, ils sont fiscalisés. Donc, il faut mieux une part de capi, vous profitez à fond de la capitalisation des intérêts et puis, en fur et à mesure, en fonction de vos besoins, si vous avez besoin de revenus, vous vendez des parts. Tandis que si vous choisissez une part de distribution, les revenus vont tomber, on va dire, tous les ans, si c'est une distribution annuelle. Mais il peut y avoir des années où vous n'avez pas besoin de ces revenus. Donc, dans ces cas-là, vous êtes obligé de les réinvestir. Et si vous les réinvestissez, vous allez payer des frais. Donc, voilà. Donc, moi, mon conseil, c'est plutôt de privilégier les parts de capitalisation. Et si vous avez besoin de revenus complémentaires, vous vendez quelque part.
Voilà donc, Judith, ce qu'il faut savoir de ces parts, donc de capitalisation ou de distribution. On passe à la question que vous envoie Pierre. Alors Pierre, il a plus de 70 ans et il voudrait transmettre au mieux son patrimoine à ses enfants et petits-enfants. Et il veut savoir comment faire.
Alors, bonne nouvelle Pierre, c'est que vous n'avez surtout pas à attendre donc, alors, la fameuse réforme donc, des droits de succession qui s'annonce, qui devait être d'ailleurs dans le projet de loi de finances pour 2023 et qui a été repoussée a priori à la fin du quinquennat. Vous n'avez pas besoin d'attendre une évolution de la fiscalité ou d'une baisse de la fiscalité sur les successions et donations. Il y a déjà beaucoup de choses à faire. Vous pouvez déjà...
Mais c'est pas gênant qu'il ait déjà franchi la barre des 70 ans ?
Non, alors ce n'est pas forcément gênant. Il y a trois outils importants pour transmettre hors impôt aux petits-enfants. Vous avez le premier outil, l'assurance-vie. Là, effectivement, mieux vaut alimenter un contrat avant 70 ans. Ça permet d'optimiser, ça permet de transmettre 152 500 euros hors impôt à chaque bénéficiaire, qui peuvent être des petits-enfants. Au-delà de 70 ans, l'exonération n'est plus que de 30 500 euros pour l'ensemble des bénéficiaires, mais tous les gains restent exonérés d'impôts. Donc oui, l'assurance-vie reste intéressante après 70 ans, mais vous avez raison, il y a quand même, ce n'est pas la même fiscalité successorale avant ou pour les versements avant ou après 70 ans. Le deuxième outil, c'est les donations. Bon, on peut transmettre hors impôt. Et dans ces donations, il faut choisir la bonne forme juridique. Alors, cette donation en sens très large, hein, vous allez voir pourquoi je dis ça. C'est qu'on oublie souvent, mais les grands-parents peuvent très très bien gratifier les petits-enfants de cadeaux, de montants peu ou prou significatifs à Noël ou aux anniversaires. Bien sûr, cette somme ne doit pas vous appauvrir, elle doit être proportionnelle à votre patrimoine, mais on peut très bien imaginer pour des cadres supérieurs, dirigeants, 4, 5, 2, 3, 4 000 euros à Noël et aux anniversaires. C'est tout ça, c'est hors impôt. Et puis ensuite, ou pour des ex-cadres dirigeants, puisque la pierre manifeste justement, il a plus de 70 ans. Et puis, au-delà, vous pouvez aussi, et ça on l'oublie souvent, mais les personnes de moins de 80 ans peuvent transmettre hors impôt à chaque petit enfant majeur 31 865 euros hors impôt en exonération totale de droits. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Puis le troisième outil, et vous en parlez souvent sur votre antenne, c'est vrai que c'est la tontine. Thibaut Cosnet, donc, qui est directeur de l'offre, vient parfois en
du
parler.
Du conservateur.
Et donc, alors, en fait, lorsque la tontine permet de répondre à une double préoccupation souvent des grands-parents, c'est de protection du patrimoine. C'est-à-dire éviter que le patrimoine soit dilapidé par les enfants, a fortiori par les petits-enfants qui peuvent être mineurs, ou alors éviter que...
Genre à 18 ans, faire le tour du monde...
Voilà, ça peut être instructif, mais sur le plan patrimonial, donc alors ça s'appelle dilapider le patrimoine familial. Et puis...
Et alors en quoi la tontine protège ?
Alors, bah, la tontine protège parce que on peut par accord, à condition de choisir choisir une tontine avec une échéance qui arrive à échéance, par exemple aux 24 ans ou aux 25 ans.
Ah, d'accord. Pas possible de toucher avant 24 ou 25.
Voilà, c'est ça. Et puis l'autre avantage de la tontine, notamment qui est très apprécié par les grands-parents, c'est que l'argent est confié à un professionnel, en l'occurrence la compagnie d'assurance, et donc il n'y a aucun risque qu'un enfant ou qu'une pièce rapportée, voire même un enfant serait administrateur légal du petit enfant, mette la main sur le magot entre guillemets, si je peux me permettre l'expression. Donc voilà. Donc Pierre, ce qui est très important, vous avez plus de 70 ans pour transmettre votre patrimoine à vos enfants et aux petits enfants. Il existe de nombreux outils, l'assurance vie, la tontine, les donations. Donc il faut prendre rendez-vous éventuellement avec un conseiller, voire avec votre notaire, pour savoir en fonction de vos priorités quel est le meilleur outil, sachant qu'effectivement l'avantage de l'assurance vie, c'est que vous conservez la pleine propriété de votre capital jusqu'au bout, avec la possibilité de modifier le nom des bénéficiaires. Bien sûr, vos enfants ou petits-enfants donc doivent attendre avant de profiter du capital.
Et surtout si sa compagnie d'assurance le veut bien, il peut mettre une clause à option qui permettra éventuellement à ses enfants de transmettre plus aisément aux petits-enfants si, lorsque le décès de Pierre survient, les enfants n'en auraient pas besoin.
Il est possible de prévoir des clauses à option. Il est aussi possible, en fait, c'est souvent au revenu ce qu'on conseille, parce que tous les assureurs n'autorisent pas ça, c'est d'ouvrir plusieurs contrats d'assurance vie afin de permettre, si conjoint il y a encore, c'est le conjoint et le bénéficiaire de premier rang, et puis s'il y a plusieurs contrats, il peut, on le rappelle qu'un contrat d'assurance vie en cas de décès, le bénéficiaire, soit il accepte, soit il renonce au contrat, mais il peut pas, sauf clause à option, choisir de ne toucher par exemple que la moitié du capital. Donc l'avantage, la solution la plus simple pour éviter, contourner cette difficulté, c'est de souscrire plusieurs contrats. Et tous avec les mêmes bénéficiaires. On peut très bien imaginer, c'est souvent le conjoint, ensuite les enfants, ensuite les héritiers au sens du code civil. Bon, et ensuite, ça permet aux enfants
de renoncer à tel ou tel
contrat si jamais ils n'en ont pas le besoin. Et donc, ça permet aux bénéficiaires de second rang d'en hériter, mais pas forcément avec la même fiscalité. Voilà. Mais ça, c'est un point important. Et ça donne de la souplesse. En plus, l'avantage d'avoir plusieurs contrats, c'est que ça peut éventuellement plusieurs contrats gérés de façon un peu différente et auprès de compagnies et de gestionnaires différents. On diversifie les risques.
Et si effectivement votre compagnie d'assurance est un peu tatillon et qu'elle ne veut pas de ces clauses à options, vous pouvez toujours contourner un petit peu tout ça en travaillant avec votre notaire, et à ce moment-là vous stipulez dans la clause bénéficiaire que la clause est déposée chez maître Intel, et comme ça vous pouvez contourner le côté tatillon de la compagnie.
Voilà, et puis en plus ça c'est encore
un conseil en plus.
Voilà, vous avez un conseil, et puis effectivement l'avantage aussi c'est que si vous indiquez dans la clause bénéficiaire que la clause bénéficiaire est déposée chez le notaire, le jour où vous voulez, si vous avez plusieurs contrats auprès de plusieurs compagnies, si vous voulez modifier votre clause bénéficiaire, bien un seul rendez-vous à prendre chez votre notaire, et voilà. Alors, tandis que sinon il faut prendre X rendez-vous avec autant de rendez-vous que vous n'avez de compagnie à qui vous avez confié votre argent.
Ça c'est un truc et astuce.
Voilà.
Question d'André, que pensez-vous des placements dans les diamants?
Alors là, on est dans le domaine
il va se fâcher tout rouge.
Alors, est-ce qu'on est dans le domaine de ce que l'AMF appelle les biens divers? Alors, à ma connaissance, mais il faudrait vérifier, mais à ma connaissance, il n'y a encore en France aucun organisme qui a obtenu les autorisations nécessaires pour vendre en France, pour proposer en France ce qu'on appelle du diamant d'investissement. Donc prudence, c'est vrai que alors le diamant ça brille, le diamant ça fait rêver, en plus en période d'inflation c'est un bien réel, donc on peut se dire que les prix un peu comme les voitures de collection, un peu à la mode, un peu comme les forêts, un peu vont progresser comme l'inflation. Les diamants c'est pas toujours le cas, les diamants de très grande qualité ont pu voir leur cote fortement progresser ces dernières années, c'est moins vrai pour la qualité courante, donc prudence. Le diamant d'investissement, c'est un placement qui sent le soufre. Depuis, déjà dans les années 70, le Revenu en parlait et mettait en garde ses lecteurs, Donc, si vous tapez sur Internet Diamant d'investissement, vous verrez que, et même Diamant, tout simplement, vous verrez qu'il y a autant de prix que d'intermédiaires que de qualité. Donc, oui, au Diamant, donc, alors, pour en offrir en cadeau, pour se faire plaisir à l'être aimé, moins, donc, alors, pour y investir, ça sent, voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup d'arnaques, donc il faut être excessivement prudent. Et encore une fois, hein, l'AMF, ce sont des ce qu'on appelle les biens divers. Et avant, il faut savoir qu'aujourd'hui, même ces biens divers, ben, il y a des autorisations à obtenir auprès de l'AMF. Donc avant d'envisager un investissement dans du diamant, assurez-vous que votre intermédiaire a bien toutes les autorisations requises pour ce type de placement.
Attention donc, hein, autant pour offrir, on dit pas, hein, mais pour investir, c'est une autre histoire. Question de Pierre, qui nous a écrit sur BFM Patrimoine, notre bfmbusiness.fr. Il voudrait quelques conseils pour dynamiser son contrat d'assurance vie.
Alors, bien sûr, c'est une excellente question, une question d'actualité. C'est souvent en début d'année qu'on revoit un peu la composition de son contrat. Ben, tout dépend. Il faut, bien sûr, il faut accepter de prendre un minimum de risques. Tout dépend ce qu'on appelle au sein de l'enveloppe assurance vie. Il faut investir dans les bons fonds. Cyrus Conseil, qui est un gros gestionnaire de patrimoine indépendant, qui faisait sa conférence de presse de rentrée il y a quelques jours, conseillait 30% en actions, 15% en obligations, 25% en produits structurés, 20% en immobilier, 10% en nos cotés. Alors, au revenu, on fait encore plus simple. On conseille 60% en fonds en euros. Donc là, c'est un placement sécurisé. Ça rapporte peut-être peu, mais c'est liquide, sans risque. Vous profitez d'une garantie qui est offerte par, qui est donnée par la compagnie d'assurance. Et puis 40% investi dans des fonds en actions, des fonds purs, diversifiés en actions internationales. Donc une fois que vous avez, je dirais, la bonne répartition, la bonne allocation d'actifs, eh ben, il faut faire preuve de constance. Hein, surtout éviter de multiplier les arbitrages, parce que souvent ça se coûte très cher en termes de frais et ensuite en termes de performance. Faites preuve de patience avec les actions. Ben, il faut donner le temps aux entreprises de créer, dans lesquelles vous avez investi, de créer de la richesse. Et donc il faut conserver ces actions plusieurs années. Et puis de la constance, de la patience et un peu de chance, et normalement votre contrat d'assurance vie devrait être dynamisé et gagner sans possiblement plus que l'assurance vie traditionnelle dite en euros.
Merci beaucoup. Avec le micro, ce sera mieux. Merci beaucoup, Christian Fontaine, pour la rédaction du Revenu. Et dans une poignée de secondes, c'est Sandra Gandoin et 90 Minutes Business. Bonjour Sandra.
Bonjour Cédric.
Que devez-vous concocter pour aujourd'hui ?
On va reparler de la réforme des retraites, évidemment, qui arrive en commission à l'Assemblée ce lundi. On va parler des talents, des sportifs et des musiciens. On peut miser dessus grâce à une plateforme qui s'appelle Royalties. Elle sera notre invitée. Et puis, combien de temps va mettre la Chine à se remettre, à repartir véritablement ? Ce sera l'objet de notre débat. Et puis, n'oubliez pas la deuxième partie de l'émission à 12h50 avec Lorraine Goumeau qui répond à vos questions et qui recrute pour vous.
Sandra Gandoin, 90 minutes business dans un instant. Le marché, lui, est en repli de 0,56%, 7057 points. Et nous, on se retrouve demain matin à 10h. Très bonne journée.
BFM Patrimoine. L'émission 100% placement sur BFM Business.